Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
J'aimerais nous inviter à lire quatre portions des Écritures. Lisons 1 roi au chapitre 1. Premier livre du roi, chapitre 11, verset 26 à 38. Vous garderez aussi la fourchette allant du verset 9 au verset 13. Nous allons les mentionner, mais vous pouvez aussi mentionner pour votre lecture. Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre les rois. Il était fils de Nébat et fratien de Tséréda, et il avait pour mère une veuve nommée Tseroua. Voici à quelle occasion il leva la main contre les rois. Salomon bâtissait Milo et fermait la brèche de la cité de David, son père. Jéroboam était fort et vaillant, et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens des corvées de la maison de Joseph. En ce temps-là, Jéroboam était sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par les prophètes Akija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Akija saisit les manteaux neufs qu'il avait sur lui, les déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Et il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kemosh, dieu des Moab, et devant Milcom, dieu des fils d'Amon, et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux, pour observer mes lois et mes ordonnances comme l'a fait David, père de Salomon. Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince pour tout le temps de sa vie, à cause de David, mon serviteur que j'ai choisi, et qui a observé mes commandements et mes lois. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils et je t'en donnerai 10 tribus. Je laisserai une tribu à son fils afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Tu seras roi d'Israël. Verset 38. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable. Quelle promesse! Comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. Nous lisons aussi 1 Roi, chapitre 12, verset 25 à 33. 1 Roi, chapitre 12, verset 25 à 33. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm et il y demeura. Puis il en sortit et bâtit Penuel. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda. Ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, notre version dit, après avoir écouté conseil, le roi fit 2 veaux d'or. Il dit au peuple, assez longtemps, vous êtes monté à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un des veaux à Bethel et il en mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple allant devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu. Et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple, et soulignez bien, n'appartenant point au fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui s'est célébrée en Juda. Il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifiât ce qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Verset 33, il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois, moi qu'il avait choisi de son gré. Soulignez bien cela. Il fit une fête pour les enfants d'Israël. Il monta sur l'autel pour brûler de parfums. Nous lisons aussi 2e livre des rois, au chapitre 13, versets 10 à 11. 2e livre des rois, chapitre 13, verset 10. Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joachaz, régna sur Israël à Samarie. Il régna 16 ans. Et soulignez bien ce qui va suivre. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam. Les péchés de Jéroboam deviennent une référence. Les péchés de Jéroboam, fils de Nevat, qui avait fait pécher Israël, et il s'y livra comme lui. Et enfin, je termine avec Romains chapitre 5, au verset 12. Romains chapitre 5, au verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, les péchés sont entrés dans le monde, et par les péchés la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. J'avais à cœur depuis quelque temps, faisant suite à l'enseignement que nous avons commencé à un moment et que nous avons eu, je pense, en six séances, les cinq preuves de la vraie conversion. J'avais à cœur directement d'entamer une nouvelle série que j'ai intitulée « Élevons les standards ». Et Dieu voulant, je pense, on va commencer cette série le premier dimanche du mois de mars. Mais Dieu m'a mis à cœur qu'il puisse y avoir une transition entre les deux. Et lors de cette transition, je vais parler en deux ou trois dimanches, on verra comment Dieu va nous conduire, sur les thèmes « Façonner les caractères et la destinée d'une nation ».« Façonner les caractères et la destinée d'une nation ». J'aimerais avant d'établir quelques principes, six au total, que nous puissions nous mettre d'accord sur les terminologies ou les concepts qui ont été mentionnés dans les thèmes. Façonner les caractères et la destinée d'une nation. Façonner veut dire travailler quelque chose afin de lui donner une forme particulière. Travailler quelque chose afin de lui donner une forme particulière. Façonner veut aussi dire inculquer des manières, des qualités, mais des défauts. Et cette manière d'inculquer peut être consciente ou inconsciente. On façonne quelqu'un. Troisièmement, façonner veut dire inciter consciemment ou inconsciemment à un certain comportement. Façonner. J'ai parlé un jour avec un jeune homme, je pense 32 ans, qui est en train de faire un cancer des poumons et qui, dès son bas âge, déjà dès l'âge de 14 ans, il a commencé d'abord en cachette à prendre la pipe à Boulungou, très loin d'ici. Et plus tard, quand il est devenu autonome, ce n'était plus en cachette, il les faisait en public au grand jour. Et même quand il a commencé à avoir un peu d'argent, à créer des responsabilités, ça faisait snob d'avoir une pipe. Et ce jour-là, alors qu'il m'a appelé pour une conversation, parce qu'il avait ses cancers des poumons causés par tout ce qu'il avalait comme fumée, je lui ai posé la question, d'où est venue l'idée de prendre, d'utiliser la pipe. Il m'a dit, c'est mon père. J'ai dit, comment ça? Il dit, j'avais 4 ans quand j'ai commencé à être conscient, et je voyais mon père toujours devant sa case, assis sur un petit tabouret, et quand il prenait sa pipe, il faisait sortir la fumée, et par les narines, et par la bouche, mais il avait un état d'extase. Il ne savait pas le message qu'il m'est lancé. Quand je le voyais faire comme ça, c'est comme s'il me disait, « Eloko Isaki Toko, elle est bonne. » Il dit, je voyais, quand il fumait, dans son plaisir, il larmoyait. Il dit, petit enfant, j'ai commencé à voir ça. Et puis un jour, je me suis dit, la joie et le plaisir que lui a, j'aimerais ressentir la même chose. Pauvre papa, il pensait qu'il était en train d'assouvir un besoin personnel. Mais là, devant sa case, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était en train de façonner quelqu'un. De lancer un message à quelqu'un. Tu prends un petit enfant de 2 ans, toi, spécialiste en bière, spécialiste en lotoko, tu le prends de côté. Moi, mon belle, fais en dessous de ma casse. Allez, y'a un mesdames, dames. Il dit, papa, c'est amer. Non! investis, tu sèmes, dans quelques années, tu vas moissonner. Mais nous avons aussi parlé de caractère. Parler de caractère, c'est parler des traits très distinctifs d'une personne ou d'un groupe de personnes. C'est parler aussi d'un ensemble de traits psychiques ou moraux qui composent la personnalité d'un individu. Ces traits peuvent être congénitaux ou peuvent être acquis. On peut être né avec colérique, bavard, ou on peut avoir acquis cela. Même quand on est partout, les Congolais sont toujours identifiables. Toujours. Une fois, j'étais dans une ville aux États-Unis, un monsieur, un noir américain m'a dit, nous savons reconnaître les Congolais des Brazzaville et de Kinshasa. Il dit, ils sont toujours élégants, surtout bien coiffés. Il dit, si tu vois quelqu'un avec une chevelure désordonnée, barbe désordonnée, pardonnez-moi si vous êtes ici, il dit, c'est soit ivoirien, malien, mais il dit, Congolais. Je parlais avec un ami congolais, il m'avait dit, la spiritualité n'exclut pas l'élégance. Et il aimait bien dire, bopé, topé, bokolongo, no yanzoto. Caractère. Ensemble des traits d'un homme ou d'une femme qui se montre dans son comportement, dans son agir et dans son réagir. Et qui démontre les valeurs auxquelles il croit et il a adhéré. Caractère. Nous avons aussi parlé des destinées. Ici, destinée a le sens des déroulements des événements. Mais destinée veut surtout dire sort spécial, réservé à quelqu'un ou à quelque chose. Sort spécial, réservé à quelqu'un ou à quelque chose ou à un groupe de gens. Ou encore situation à venir. Mais nous avons aussi parlé dans notre intitulé des nations. Et la nation, j'aimerais pas les prendre un peu comme nos profs de droit constitutionnel les faisaient. J'aimerais les prendre différemment. Quand nous lisons Matthieu chapitre 28 au verset 19, Christ mentionne cela. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il n'avait pas la notion comme nous l'avons aujourd'hui en droit constitutionnel. C'est qu'il voulait simplement dire, il voulait parler d'une multitude d'hommes et de femmes vivant ensemble. Ethnos en grec. Multitude de personnes de même nature partageant des choses en commun. Et combien la façon d'être d'un groupe de gens peut être orientée dans une certaine direction. Et cela me permet de mentionner ces six principes qui m'aideront à progresser tout à l'heure à clore. Le tout premier principe, c'est que la façon d'être et de faire de plusieurs, c'est-à-dire des multitudes, peuvent quelquefois dépendre de l'influence des minorités. La façon d'être et de faire des multitudes et de plusieurs peuvent quelquefois dépendre des minorités. D'une seule personne, et tout le monde va dans une certaine direction. J'ai quelquefois vu dans les églises les membres avoir les tics de leur pasteur. Tics verbaux, toutes sortes de tics. Un pasteur est allé au Nigeria, il portait toujours costume quand il est rentré. Désormais, c'était des boubous. Et dans son église, les boubous ont commencé à avoir du succès. Il n'a jamais dit « faites comme moi ». Mais il a conditionné. Deuxième principe important, c'est qu'il y a des positions, soit innées, soit choisis ou soit obtenus, qui sont des possibilités d'influence inimaginables. Il y a des positions, soit innées, aînées de la famille, soit choisies, parents, soit obtenues, PDG, gouverneur, pasteur, responsable de département, je ne sais, qui sont des possibilités d'influence inimaginable. Et combien certains occupent des positions sans être conscients de l'impact que leurs comportements peuvent avoir sur les autres. J'ai encore en mémoire, il y a quelques années, cet homme qui a marqué l'histoire de l'Afrique et même du monde. Il venait pour des raisons que je n'aimerais pas mentionner si je ne maîtrise pas tout. Il s'est séparé de la femme de sa jeunesse parce qu'il était en prison longtemps, semble-t-il, il est sorti, il a découvert des choses. Il a levé l'option de se séparer. Mais il a commencé à vivre en catimini avec une autre. Et l'un des grands hommes d'église de sa nation s'est levé, lui a dit, soit vous arrêtez, soit vous officialisez. Il dit, vu ton niveau, tu ne peux pas avoir de petite amie. Soit elle devient ta femme, ou soit tu arrêtes. Donne-nous des gens qui font le sale boulot. Qui quelquefois nous parlent à nous responsables, nous parlent pasteur. Et cet homme a dû se ranger. Et il lui a expliqué, dit, vu ta position, les gens te regardent. Tu as une jeunesse à influencer. Tu représentes certaines choses. Qu'est-ce que des gens qui occupent des positions et qui ne sont pas conscients de cela. J'ai 48 ans aujourd'hui. Quand j'étais petit garçon, j'aimais bien manger les cacahuètes, j'aimais en poche. Mon pain, dans ma poche gauche, les cacahuètes là. Je coupe un peu les cacahuètes, j'aimais puis le pain, et puis je prends les cacahuètes, je ne mangeais pas normalement. Et bizarre, c'est exotique. Ça fait du bien, c'est la moelle. Malgré mes 48 ans, j'aimerais vous dire, de temps en temps, j'ai envie de faire ça. Même en cours de route. Mais j'ai dit, je suis Roland Révérend. Ce n'est pas le désir qui me manque. Mais je sais que plusieurs me regardent. Si je le fais, que feront les autres demain? Que des gens qui occupent des positions qui n'ont pas cette notion de l'influence. Deux passages de la Bible nous montrent des gens qui y ont influencé sans les savoir. Jean chapitre 21 au verset 3, parlant de l'apôtre Pierre. Il avait suivi les maîtres et pour une raison ou une autre, il était découragé à cause de tout ce par quoi il était en train de passer. Écoutez ce que la Bible dit. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Il dit, je. C'est son initiative. Et écoutez ce que la Bible dit. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Lui, il veut aller pêcher, il n'a invité personne. Mais il n'avait aucune idée de l'influence qu'il avait sur les autres. Tous ont voulu faire parce qu'il lui a décidé de faire. Dans Galates chapitre 2, au verset 13, la Bible nous parle de la manière dont l'apôtre Paul a blâmé son ami Pierre. Pourquoi? Parce qu'il est venu à un certain endroit. Il a trouvé Pierre se comportant d'une certaine manière. Et j'aime ce qu'il dit. Si toi qui vis à la manière des Juifs, tu poses des actes des païens, comment forces-tu les autres à judaïser? Mais la Bible ajoute, avec Pierre, les autres Juifs usèrent aussi des dissimulations. En sorte que Barnabas même fut entraîné dans leur hypocrisie. Paul est étonné. Si vous étudiez la vie de Barnabas, c'est un homme de valeur. Mais Paul est étonné. Comment non seulement les autres suivent, mais même Barnabas. Barnabas a suivi parce que Pierre a fait. Il y a certaines choses, les Barnabas ne feront jamais si les Pierre ne font pas. Si lui les fait, c'est que c'est permis. La version française courante dit du même passage, les autres Juifs convertis, imitant la conduite de Pierre, se sont mis eux aussi à cacher leur véritable conviction, au point que Barnabas lui-même, on insiste pour montrer la valeur de cet homme. Lui-même s'est laissé entraîner avec eux dans la dissimulation. Troisième principe, c'est que les générations sont liées. Les générations ne vivent pas comme des îlots, séparés les unes des autres. Ecclésiaste chapitre 1, verset 4 dit, une génération s'en va, une autre arrive. Les générations s'influencent. La qualité de la génération qui arrive dépend de l'héritage qu'elle reçoit de la génération qui part. J'aimerais nous poser la question, nous de cette génération, qu'allons-nous laisser aux générations qui viennent? Nos pères sont nés de la génération de l'effort, de la compétence. Nous, on a été déviés. Quand on regarde l'histoire de cette église, on peut voir les années 72, 73, on peut dire, c'est là où tout a commencé. Des heures et des heures à chanter. Heureux le peuple qui chante et qui danse. Et puis, aérianisation, toutes les mesures. Allez, des notions ont commencé. Chance et loco. Plus d'efforts. Et toute une nation a commencé à dévier. Qu'allons-nous passer à la génération qui vient? Une génération s'en va, et une autre arrive. Quatrième principe, dans un groupe, il y a toujours deux types de personnes. Il y a les initiateurs conscients ou inconscients, et il y a les imitateurs aussi conscients et inconscients. Dans chaque groupe, il y a des initiateurs. Ils initient consciemment ou ils initient inconsciemment. Mais ils n'ont pas aussi l'idée qu'ils sont entourés des imitateurs. Imitateurs conscients et imitateurs inconscients. Seigneur, aide-moi à savoir que je suis entouré. Souvent, quand il m'arrive de m'arrêter, je dis, si Dieu me prenait aujourd'hui, que vais-je laisser comme héritage à la génération qui vient? Si les générations qui vont venir après pourront se souvenir de moi, qu'est-ce qu'ils vont garder comme souvenir? Cinquième principe, c'est que des groupes prennent le plus souvent la forme que leur leader ou ceux qui sont placés devant eux leur donnent. Des groupes prennent souvent la forme que ceux qui sont placés devant eux, leur leader, leur donne. Et cette façon de donner, j'aimerais insister encore, elle est consciente ou elle est inconsciente. Et puis enfin, sixième principe important de noter, c'est que les systèmes, c'est-à-dire façon d'être et de faire, naissent des personnes, mais la plupart des fois survivent aux personnes. J'aimerais le répéter. Des systèmes, façon d'être et de faire, naissent des personnes, sont initiées par des personnes, mais peuvent survivre aux personnes. Quelqu'un disait, Mobutu peut mourir, et Mobutisme va rester. À part Mbappé partir, la religion qui t'aime y restera. On l'aura enterré, bien enterré. Mais il aura laissé deux choses. Des systèmes naissent des personnes, sont initiés par des personnes. Mais il arrive des fois, les personnes sont parties et les systèmes restent. Les trois premiers textes que nous avons lus sont étonnants. Les deux premiers sont séparés du troisième de plus de 200 ans. Jéroboam a posé des actes, mais 200 ans après, on parle de la voix de Jéroboam. Lui-même, il n'avait aucune idée, quand il a posé certains actes au départ, qu'il était en train d'établir un système. Nous le verrons tout à l'heure. Il avait levé des options pour trouver une solution à un problème immédiat, pour parer au plus pressé. Mais ceux qui ne savaient pas, il déviait toute une nation. Il a mené toute une nation dans une autre direction. Seigneur, aide-moi comme pasteur à ne pas amener les gens sur un chemin. Que les jeunes gens qui viendront au ministère demain ne puissent pas prendre le ministère comme une chose légère. J'étais choqué une fois en Afrique du Sud. Je devais prêcher, j'étais sur l'estrade. C'était une convention. Et juste avant que je ne monte sur la chaire, l'un des prédicateurs qui était à mes côtés, il a dit en son ami en lingala, les Kinoa. Il a dit, bandi, mais pas ça, bilanga, il y a pas pasteur. Donc, les croyants sont une plantation, les pasteurs peuvent venir. Et puis, il lui a ajouté, dit, c'est-à-dire, quand je vais monter sur la chaire, je vais me faire payer. Et là, j'aimerais dire aussi à vous, les croyants congolais, bandimi congolais, vous nous déformez. Quand je viens, je prêche normalement comme ça. Ma foute est athée, on suis athée. On aime des gens qui... Oh! Il fait disparaître la partie noire des yeux, il n'y a que la partie blanche. Quand il parle, il dit, ma foutard, papa. Et vu, j'ai vu cet homme monter, tout ce qu'il faisait, c'était théâtral. Il prend, dit, oh! Je sens quelque chose de fort, il sent rien. Il dit, Dieu m'a dit qu'il veut bénir 10 personnes. Il y a ces choses que je sens, c'est fort. Si chacune des personnes donne 1 000 $, Dieu me dit, ouf, dans moins d'un mois, ils auront les triples. Et le Congolais balingaraboué. Ce qui m'a étonné, Dieu lui avait parlé de 10, mais ils sont venus 30. Je me disais, comme Dieu lui a dit, il va renvoyer 20. calmement as eu 1000, 2, 12, 15, 30. Je revenais de Nairobi. Et puis il est venu ce soir, quand il s'est assis, il a dit à son ami, mon ami, Nangindi. Ça dit, j'en ai plein. Et moi, j'étais là avec mon honnêteté, mon intégrité, que le pasteur Jacques-André Vernon m'avait appris. Et j'étais à côté, je disais, ah, Mfumunzambo, tout ça, dit ça. Seigneur, aide-nous. Et qu'est-ce qu'on peut entendre d'un tel prédicateur? Il engendrera aussi selon son espèce. Et on sera étonné que la qualité du ministère aille en baissant. Salomon s'est méconduit. Et Dieu a levé l'option. Dieu a dit à Salomon en des paroles claires. Il dit, parce que tu as agi de la sorte, je ne le laisserai pas impuni. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller d'après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as pas observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Verdict fort. Et ce verdict de Dieu me permet de dire une chose. Il y a des moments où la patience de Dieu atteint les combles. Il y a des moments où Dieu dit, trop, c'est trop. J'aime beaucoup ce qu'un général qui est décédé a proclamé un jour dans cette nation, après qu'il y ait eu des émeutes. Il a dit, la colère de Dieu est lente, mais elle est là. La colère de Dieu, elle est peut-être lente, mais elle est là. Dieu a dit à Salomon, je vais frapper, je veux arracher le royaume d'entre tes mains. Et Dieu décide, par son amour, par décision personnelle, de confier une partie du royaume à un jeune homme, cheval non partant, qui rêvait de tout sauf de la royauté, Jéroboam. Et Salomon le découvre de manière particulière alors qu'il est en train de travailler. Et puis plus tard, le prophète Akish les rencontre et confirme en lui donnant ces morceaux d'habit coupés en 12 morceaux. Il dit, prends 10, Dieu te donne. Et non seulement que Dieu lui donne, Dieu lui promet de les protéger en lui disant, si tu marches dans les voies de David, mon serviteur. Il a reçu gratuitement une royauté qu'il n'a ni cherché et ne s'est même pas battu pour cela. Et il accède à la royauté. Après quelques temps, Jéroboam a un problème. Pourquoi? Parce que désormais, le royaume qui était uni est scindé en deux. Il y a le royaume d'Israël, qu'on appelle Samarie, ou royaume du Nord, constitué de 10 tribus. Et c'est là où lui, il règne. Mais de l'autre côté, il y a le royaume du Sud, appelé aussi Juda, qui n'a que 2 tribus. Mais ayant une partie principale, Jérusalem, qui est le centre de rayonnement sur le plan politique, mais surtout le centre du culte. Où, quelles que soient les tribus, les gens étaient habitués depuis des années à aller à Jérusalem pour offrir, aller à Jérusalem pour prier. Et Jéroboam a un problème. Il règne sur 10 tribus. Il y a de l'autre côté seulement 10. Mais il s'est rendu compte d'une chose. Chaque fois qu'il y a fête, à chaque fois qu'il y a manifestation, bien que politiquement ces gens dépendent de lui, ils sont obligés de descendre à Jérusalem. Il prend peur. Il commence à se dire, qu'est-ce qui va se passer chaque fois qu'ils iront de l'autre côté? Qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui est triste? Quelqu'un à qui Dieu a donné la royauté sans qu'il puisse la chercher. Et même Dieu lui a promis protection. Si seulement tu marches dans les voies de David, ce que tu crois être un problème ne sera pas un problème. Est-ce que c'est Dieu qui t'a placé sur le trône est incapable de maintenir le cœur de ce peuple attaché à toi? Même s'ils vont à Jérusalem, même s'ils vont offrir, j'ai appris ces quelques années dans le Seigneur que ce que Dieu me donne, je n'ai pas à trembler. J'aime quand Jean-Baptiste parlant à Christ, il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si le ciel t'a donné, tu n'as pas à te battre. Ça finira par arriver. Combien quelquefois nous voulons nous battre, faire des coudes pour avoir. Pauvre Jéroboam. Celui qui t'a donné est incapable de maintenir le cœur de ce peuple. Il se met à trembler. Il se met à trembler. Et nous l'avons lu dans 1 Roi, chapitre 12, verset 26. Il dit en son cœur. Il dit en son cœur. J'aimerais te poser la question, qu'est-ce que tu t'es dit le plus souvent? Il s'est mis à réfléchir. Il a évalué la situation. Et écoutez ce qu'il dit. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda. Et ils me tueront. Et retourneront à Roboam, roi de Juda. Il a tellement peur. Il est tellement dans l'insécurité qu'il s'imagine des scénarios. Chaque fois qu'il voit les gens aller en pèlerinage, lui, il tremble. Est-ce qu'ils vont revenir? Quand il les voit revenir, ouf. Mais il s'est dit, non, je ne veux plus trembler. Je dois trouver une solution. Il ajoute encore, ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Écoutez ce que le verset 28 dit, après s'être consulté. Une autre version dit, après avoir eu conseil. Une autre version que j'ai lu dit, après avoir recueilli l'avis de ceux qui l'entouraient. J'aimerais nous poser la question, qui écoutes-tu? Qui consultes-tu? Qui est tout autour de toi? Que des chanteurs de refrains qui n'ont pas le courage de nous dire des choses en face. Yo, l'Ekibango. Yo, Maradona. Des gens prêts à appeler un chat, un chien, parce que c'est nous qui sommes en face. Prêts à nous faire plaisir après avoir consulté. Quelquefois, il y a plusieurs cas de figure qui se présentent par rapport aux entourages. Il a vu qu'il y a un bon leader, mais qu'il y ait des mauvais entourages. Bon leader, mauvais entourage, donc mauvais conseiller. Il arrive aussi qu'il y ait un bon leader et des bons conseillers. Ça, c'est le meilleur scénario. Mais quelquefois, il arrive aussi qu'il y ait un mauvais leader, mais des bons conseillers. Ils peuvent encore jouer un rôle. Mais le pire des cas, c'est quand il y a un mauvais leader, mauvais entourage, donc mauvais conseiller. Et la locomotive et les wagons mauvais. Jéroboam prend une décision qui a comme finalité consolider et protéger son pouvoir par tous les moyens. Réfléchit-il aux conséquences? Pense-t-il à demain? Voit-il plus loin qu'au-delà de sa personne? Non. Il ne voit que l'immédiat. Résoudre un problème. Proverbe 20, verset 25, la Bible dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. En général, en termes de réflexion, il y a trois grosses erreurs qu'il nous faut éviter. La première erreur, c'est l'absence de réflexion. L'absence de réflexion. La deuxième erreur à éviter, c'est la réflexion biaisée, faite à la hâte, à la légère. Et la troisième, c'est la réflexion tardive. Elle est bonne, mais elle est faite au mauvais moment. J'ai souvent dit cette histoire, cette femme qui vient me voir au bureau, 6 ans de mariage, je dis, pasteur, je te jure, là, mon mari, c'est le petit frère propre de Satan, Abala Satan, Satan, puis Yalanda. J'ai dit, tu le savais quand? Quand vous étiez fiancé, tu n'avais pas les informations qu'il y avait ton mari avait des liens de filiation avec le diable. Pourquoi emporter par les émotions? Je n'ai souvent quelquefois pas. Qu'il y ait des jeunes gens qui prennent des engagements aussi sérieux comme le mariage, partant de bases légères. Pasteur, c'est un moustache naïe. Moustache, maman. C'est un moustache, mais c'est un boxeur à bêta. Une jeune fille dit, pasteur, il dit à l'ingale, il dit à l'ingale, il dit à français naïe, papa. Il peut être francophone, francophile, mais le beau flambeau. Mais français, saumon. Je te fais des bisous angéliques. Moi, je te fais des compliments ambivalents. Ma chérie, tu as une beauté redondante. Mais mouillibi. réflexion. Pasteur, attends, on a mon soeur, on a démarche. Démarche, papa. Démarche qui toco, mais gestion. Comme ce mari qui me dit, pasteur, si on a roulé un gabas, c'est pas ça dans les autres, le roulé un boxeur, le roulé un frère, le roulé un pasteur, il y a un bon roulé un gouba. Consomme comme si c'était des caca. Ah, jeunes gens réfléchissaient. Quelqu'un dit, le mariage, c'est comme un bateau. Ceux qui sont dehors veulent y entrer à tout point de vue. Ceux qui sont dedans veulent en sortir. Comme j'ai entendu cet homme au bureau, il dit, pasteur, grâce à Naponi, quatre soeurs, nous allons vous permettre la polygamie, grâce à Naponi. J'ai déjà choisi quatre. Donc si Dieu dit pas aujourd'hui, y a-t-il quelqu'un qui est dans ce cas? Un autre plus rien aller avec sa femme. Il vient me voir au bureau du pasteur. J'ai appris que Dieu entend tes prières. Terrible. Réfléchir. Dis à ton voisin, réfléchis. L'absence de réflexion, elle est mauvaise. La réflexion biaisée, elle est mauvaise. Mais la réflexion tardive aussi, elle est mauvaise. Et Jéroboam, apparemment, ne réfléchit pas. Dans cette petite décision, se cache la déviation et les changements des caps de tout un peuple. Jéroboam pose des actes qui veulent dire cinq choses principalement. Les actes qu'il pose veulent dire déconnexion de Jérusalem et de Juda. Deuxièmement, les actes qu'il pose veulent dire établissement d'une nouvelle manière d'être et de faire. Il place un veau d'or, il crée des hauts lieux et il offre des sacrifices. Troisièmement, les actes qu'il pose veulent parler de la création d'une alternative à l'essentiel. Ça ne vaut plus la peine de continuer à aller de l'autre côté. Nous allons monter quelque chose d'autre. Et il établit même deux endroits où il place des hôtels à Bethel, ainsi que à Dan. Ça ne sert à rien d'aller à Jérusalem. Ce que vous pouvez trouver à Jérusalem, il y en a à Dan et il y en a aussi à Bethel. Création d'une alternative. Quatrièmement, changement des habitudes par un calendrier nouveau. Et pourtant, toutes les fêtes d'Israël, c'est Dieu qui avait établi les dates. Dieu avait dit telle fête, vous les ferez à tel moment. Mais lui vient, il avait dit, il établit une fête à son gré. Il se fait lui-même législateur. Il fixe, voilà désormais. Et cinquième chose, il se fait lui-même souverain sacrificateur. Parce que nous le verrons, il a commencé lui-même à offrir. Que cette décision soit une décision pas bonne, mais le plus étonnant, c'est ce que la Bible dit au verset 30. Le peuple alla devant l'un de vous jusqu'à Dan. Le peuple les suivit. Le peuple alla dans cette direction. Et ces actes que Jéroboam pose cachent des pensées et des idées plus fortes à la surface que soit il connaissait et que le peuple ne connaissait pas. Parce qu'il arrive quelquefois que certains veulent nous amener dans une certaine direction et ils savent où ils nous amènent. Mais nous ne savons pas. Et j'aimerais mentionner un certain nombre de choses et puis nous allons prier. Il a posé des actes qui à la surface on ne voyait pas. Mais lui voyait où il voulait amener le peuple. Cinq au total. Premièrement, il a créé de fausses images. Le verset 28 dit, il dit à Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et au travers de cet acte, il change toute l'histoire d'un peuple. Est-ce ce petit veau d'or qui a fait sortir? Il change l'image. Dieu voulait, quand il a voulu, il a fait sortir son peuple d'Égypte. Il a voulu que son peuple ait de lui l'image d'un Dieu illimité, un Dieu fort. Il dira, vous ne me ferez pas d'image taillée. J'aimerais pas que vous puissiez me mesurer. Mais lui, il établit un Dieu mesurable. Il change les images. Il change même l'histoire de toute une nation. Il réduit l'image du Dieu fort en un Dieu limité. Deuxième des choses, il déconnecte le peuple du vrai Dieu. Les noms sont toujours là. Les symboles apparents sont là. Les actes de dévotion sont encore là. Mais tout cela n'est que caricature. Ils continuent à offrir. Ils sont même sincères. Israël, voici ton Dieu. Il appelle Jéhovah. Mais ce n'est plus Jéhovah. Pardon. Tout change. Il déconnecte le peuple de son vrai Dieu. Il coupe contact avec Jérusalem. Il devient lui-même législateur. Troisième des choses, il enseigne indirectement la paresse et la loi du moindre effort. Le verset 28 dit, il dit « assez longtemps ». Assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem. Voici ton Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi faire cette longue distance? Ça ne vaut pas la peine de faire des efforts. C'est vrai, il résout un problème, mais il inculque la paresse. Ne cherchez pas à faire des efforts. Créez quelque chose qui est devant. Loi, moindre effort. Que des choses qui nous sont communiquées sans que nous puissions les savoir. Que des parents qui détruisent les enfants. Un enfant a échoué, tu l'aides à avoir un faux bulletin. Tu résous un problème peut-être psychique, mais tu ne sais pas comment tu les détruis. Il est détruit à vie. Les parents ont participé à la tricherie. Il fera un bulletin, un faux bulletin, on ira l'inscrire ailleurs. On sera étonné plus tard qu'il y a quelques niveaux de gestion. Il ne puisse pas produire certaines choses. Il enseigne indirectement la paresse et la loi, moindre effort. Quatrièmement, il réduit les standards en bafouant la notion de l'exigence et de la compétence. Il réduit les standards en bafouant la notion de l'exigence et de la compétence. Le verset 31 dit ceci. Jéroboam fit une maison des hauts lieux. Il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. N'importe qui peut devenir sacrificateur. Alors que quand Dieu avait établi les choses avec Moïse, si vous lisez la parole de Dieu, quelle exigence! Ils doivent être membres d'une tribu. Et ça ne s'arrête pas là. Je lisais encore hier soir et je n'en revenais pas. Quand vous lisez Lévitique 21, 16 à 23, quand quelqu'un devait être lévite, on l'examinait même physiquement. Souffrez que j'en parle. La Bible dit que s'il avait des testicules pas en bon état, il ne pouvait pas travailler. Dieu regardait même les petits détails. Mais quand Jéroboam devient, il dit n'importe qui. Il n'y a plus d'exigence, plus de conditions. On pourra dire, comme les chailleurs des centres-villes Toto Bukimbongo, il a réduit les choses. Ce qu'on veut acheter à 1000, il dit, vous pouvez l'avoir à 100. Ça ne vaut pas la peine de payer un prix élevé. Il enseigne, il veut dire, on peut avoir un moindre coût. Il ne faut pas payer les prix élevés. Quatrièmement, cinquièmement, il impose un service de valeur inférieure, peu coûteux, où lui-même devient le souverain sacrificateur. Il impose un service de valeur inférieure. Les versets 32 à 33 disent, il offrit des sacrifices sur l'autel. Les versets 33 disent, il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Il n'a jamais été un souverain sacrificateur, mais il les devient. Sans le savoir, il enseigne tout ce que vous voulez avoir. Il suffit d'un peu d'audace, d'un peu d'ingéniosité, pour ne pas dire des ruses et des roublardises pour avoir. Il y a des leçons qu'on enseigne directement, mais aussi des leçons qu'on enseigne indirectement. Combien il est bon que nous puissions savoir que des petits actes peuvent avoir de l'influence inimaginable. Quand la reine Vasti s'est mal comportée, j'aime la réaction des conseillers qui étaient tout autour du roi. Écoutez ce qu'ils lui ont dit. Quand ils ont dit qu'il faut que la reine parte, ils lui ont dit ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi. C'est aussi envers tous les princes et tout le peuple qui sont dans toutes les provinces du roi d'Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. conscient que vu sa position, si on ne fait rien, elle aura lancé un message. Désormais, il faut faire ceci. Donnons-nous des gens qui, de par leur position, ont conscience de la position qu'ils occupent. J'aimerais ouvrir une parenthèse que je fermerai rapidement. Femme, vous avez des problèmes avec votre mari. Ce n'est pas l'homme le plus gentil, ce n'est pas l'homme le plus romantique, je ne sais quoi. Mais ne communiquez pas votre gangrène à vos enfants. Ta confiance était. Et vous aussi, les maris. Si ta femme est ndoki, toutes ne sont pas ndoki. On aime beaucoup les généralisations. Tu étais déçu par un gars, Il y a des kabangou bons, romantiques, élégants. Il y a des chimbombo bien. Mais j'aime ce que 1 Roi chapitre 13, verset 1 à 3 nous montre que Dieu vient intervenir dans l'affaire. J'aime Dieu, il intervient toujours. Un prophète est envoyé, il vient de Juda. Et la Bible dit, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam s'éteignait à l'autel pour offrir des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit, autel, autel. Ainsi parle l'Éternel, voici il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Joas. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Verset 3, et le même jour il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel s'effondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Trois choses que j'aime là. La première c'est que quand les prophètes arrivent, ils ne s'attaquent pas à la personne. Ils s'attaquent à l'autel, les systèmes. Parce qu'il sait que si tu t'attaques à la personne et que le système reste, ça ne sert à rien. Mais si tu détruis le système, la personne peut rester. Et le système peut être mis de côté. Il crie à l'autel. Deuxièmement, il donne un signe attaché au futur. Et nous allons voir cela dimanche prochain. Il parle d'un enfant qui va naître, qui va tout changer. Ce que j'aime, c'est que Dieu se sert du temps pour corriger des choses. Et il dit un enfant naîtra qui s'appelle Josias. En parlerons dimanche prochain. Il naîtra 360 ans après. Mais l'on donne déjà son nom. Nous avons le Dieu qui tient l'histoire entre ses mains. Le maître des temps et des circonstances. Mais troisièmement, il donne un signe immédiat. Il dit l'autel va se casser. J'aime quand Dieu intervient. Et quand Dieu intervient, c'est mieux. Il sait faire les choses. Mais la Bible nous montre surtout les conséquences à long terme des décisions et actes de Jéroboam. D'abord simplement au niveau d'Israël, mais plus tard aussi ça s'est étendu à Juda. Laissez-moi vous lire ces quelques deux ou trois passages et nous allons clore ce matin. 1 Roi chapitre 15, versets 25 à 26. Nadab, fils de Jéroboam, régna sur Israël. La seconde année d'Asa, roi de Juda, il régna 2 ans sur Israël. Écoutez le verset 26. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans la voie de son père, en se livrant au péché que son père avait fait commettre à Israël. Jéroboam ne lui avait pas dit « fais comme moi ». Jéroboam est même parti. Mais Nadab arrive, il perpétue le système. Il a une référence. Lisez encore avec moi, 1 Roi chapitre 16, verset 25. Omri marcha dans les voies de Jéroboam et se livra au péché de Jéroboam. Ça devient une référence. Jéroboam n'est plus là, mais il a façonné le caractère de toute une nation. Il a façonné la destinée de toute une nation. Les gens se comportent d'une certaine manière parce que quelqu'un a laissé une référence. 2 Rois chapitre 10, versets 28 à 29, nous montre comment les conséquences des actes de Jéroboam ont été résistants au temps. Un homme bon qui s'appelait Jéhu, un réformateur, avait dit Jéhu extermina Baal au milieu d'Israël. Mais il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il n'abandonna point les veaux d'or qui étaient à Bethel et à Dan. Plus de 100 ans, mais les conséquences restent. Ce matin, en terminant, je me relance ces 4 appels, afin que toi et moi nous puissions prier. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut dire, Seigneur, aide-moi à être une influence positive. Aide-moi à communiquer des valeurs et non des tares. Aide-moi à donner comme héritage aux générations futures un modèle, un bon modèle à suivre. Deuxième prière, et le vœu de mon cœur qu'il y en ait quelqu'un qui puisse la faire. Seigneur, pardonne-moi d'être celui qui inaugure ou renforce des tares ou des antivaleurs dans un groupe. Épargne-moi d'être quelqu'un qui initie ces choses ou qui alors les renforce. Je ne mérite pas en être un. Troisième et avant-dernière prière, aide-moi, Seigneur, à avoir le sens du futur, c'est-à-dire à réfléchir sur mes actes et leur impact au-delà de ma personne. À prendre conscience que les actes que je pose aujourd'hui ne se limitent pas à moi, ça peut aller bien au-delà. Mais quatrième et dernière prière, y a-t-il quelqu'un qui veut dire « j'ai fait des mauvais choix et j'ai posé des actes mauvais qui ont été vus par d'autres ?» qui ont déjà un impact négatif dans les autres, je ne sais comment les corriger. Je ne sais comment les réparer. Mais Seigneur, je prie que cette influence s'arrête. Et je viens ce matin te demander, Seigneur, aide-moi à ne pas être un Jéroboam. Aide-moi à ne pas être quelqu'un qui dévie une personne ou un groupe de personnes. J'aimerais que simplement nous puissions baisser nos têtes. Nous nous tenons tous la main dans la main, nous restons assis. Il y a ce vieux cantique d'autrefois qui monte dans mon cœur. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Nous allons les chanter, puis l'homme de Dieu va prier pour nous. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi.
Ô Seigneur, fidèle à toi.
J'ai un prix.
Des victoires à gagner, ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi,
fidèle à toi,
garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi,
fidèle à toi.
J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi.
J'aimerais durant quelques minutes que tu pries pour toi-même par rapport à ce message, surtout aux quatre dernières choses qui ont été dites. Mais j'aimerais aussi après que tu élèves ta voix, que tu pries pour les centres missionnaires Philadelphie, afin que Dieu fasse de nous un point de rayonnement positif. J'aimerais aussi que tu pries pour l'église au Congo, l'église corps du Christ, afin que cette église puisse être une bonne influence. Mais j'aimerais aussi, pourquoi pas, que tu puisses prier pour notre nation. Élève ta voix et parle au Seigneur.
Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.